بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Explication du hadith numéro 6. Un hadith très important rapporté par le compagnon An-Nu'man ibn Bashir. Il nous dit que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. Le licite et l'illicite sont des choses bien évidentes dans notre religion. Et entre les deux, entre ces deux domaines clairement définis dans notre religion, par les paroles de Dieu et les propos de son prophète, il y a un domaine qu'on appelle al-mushtabihat, c'est-à-dire le domaine de l'équivoque. Les choses licites et illicites sont bien évidentes, mais entre les deux, il y a des choses équivoques qui ne sont pas connues d'un grand nombre de gens. La ya'lamuhunna kathirun minan nas. Ensuite, le prophète nous dit: faman ittaqa ash-shubuhat faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Quiconque évite ces derniers, c'est-à-dire ces choses qui sont équivoques, douteuses, ou qui font ambiguïté chez les gens, quiconque évite ces dernières préserve sa religion et son honneur. وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ. Mais celui qui y tombe, dans ce domaine équivoque, tombe certainement dans le domaine de l'interdit. Et ensuite, le prophète va éclaircir ce qu'il a dit de manière théorique par un exemple, une métaphore, comme c'était son habitude, dans un souci de clarté, d'explication. Il nous dit: كَالرَّاعِ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ. Il sera, cette personne qui va tomber dans l'équivoque, et finalement tomber dans l'interdit, il est semblable, il sera comme le berger qui fait paître son troupeau près d'un enclos réservé. À tout moment, il risque de l'empiéter. وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًا أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًا أَلَا وَإِنَّ حِمَ اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةٍ إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. Donc cette personne qui va finalement se laisser aller dans tout ce qui est équivoque va finir par tomber dans l'interdit, parce qu'il ressemble à un berger qui fait paître son troupeau près d'un enclos réservé, et à tout moment il risque de l'empiéter. Sachez, dit le prophète, que chaque souverain, chaque roi, chaque personne qui a du pouvoir, a un domaine privé. Et le domaine privé de Dieu, c'est la sphère de ses interdits. Et ensuite, donc ça c'est la première partie du hadith, et ensuite vous avez une deuxième partie qui traite du cœur, qu'on traitera dans le cours prochain. Donc, qu'est-ce que nous dit le prophète à la fin? Il nous dit qu'il y a dans le corps un membre ou une partie, si elle est bien entretenue, tout va bien dans le corps, et si elle est délaissée, alors tout va mal dans le corps. Et cette partie, c'est le cœur. Nous, on va s'intéresser à la première partie qui traite du licite et de l'illicite en islam, et du domaine intermédiaire qui est celui de l'équivoque. Bon, le licite en islam, c'est tout ce qui est autorisé. Que ça soit autorisé, c'est-à-dire, bon, l'autorisé rassemble, le licite, il rassemble l'autorisé, mais également ce qui est recommandé et ce qui est obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est ce qui doit être absolument accompli. Si il est mis en exécution, c'est obligatoire, on est récompensé. S'il est délaissé, on risque d'être puni par Dieu, on commet un péché. Le recommandé, c'est ce vers quoi nous sommes invités. Si on l'accomplit, nous sommes récompensés, et si on le délaisse, nous ne sommes pas punis. Quant à l'autoriser, c'est un domaine indifférent, il n'engendre ni bonne action, ni mauvaise action. C'est le fait de manger, de boire, de marcher, de dormir, des choses qui sont en fait, que l'on fait de manière naturelle, des choses humaines, elles n'engendrent ni bien ni mal en principe, mais bien entendu, si on mange dans le but de plaire à Dieu, de se renforcer pour l'adorer, si on dort pour se réveiller au matin et prier, ça devient des bonnes actions. Donc le licite rassemble l'autoriser, le recommander et l'obligatoire. L'illicite, c'est l'inverse. C'est ce qui est interdit ou déconseillé. C'est ce qu'il faut délaisser dans notre religion. Donc ce sont, nous dit le prophète, ces deux domaines, le licite et l'illicite, ce sont deux domaines qui ont été clairement définis, c'est-à-dire que Allah Azza wa Jal et son prophète se sont prononcés de manière explicite dans ces deux domaines, à tel point que c'est clair pour tout le monde. Et généralement, ce qui est du licite et de l'illicite ne va pas faire divergence. Et si c'est divergent, ça va être dans des choses secondaires. Mais il y a un domaine qui va faire beaucoup de divergences, beaucoup de polémiques entre les gens. C'est le domaine de l'équivoque, ce qui n'a pas été clairement interdit ou clairement autorisé. C'est un domaine assez flou qui fait divergence entre les savants et qui fait polémique entre les gens qui ne sont pas savants, mais qui veulent appliquer ce qu'ont dit les savants. Ce domaine de l'équivoque, on a besoin, nous qui ne sommes pas des spécialistes, de certains critères, de certains conseils pour pouvoir le gérer. Parce que le prophète a dit que cet équivoque, peu de gens vont savoir se positionner dans le domaine de l'équivoque. Et ils ont besoin de se référer à une minorité de personnes qui ont de la science. Parce que vous ne le trouvez pas de manière claire dans le Coran ou dans la Sunna. Mais on a besoin d'une certaine méthodologie, d'une certaine réflexion, d'une certaine analyse. Donc ça suppose des études, ça suppose une intelligence, ça suppose beaucoup de choses. Et on n'a pas forcément le temps, ni les capacités d'être des spécialistes, des savants, pour pouvoir se prononcer dans le domaine de l'équivoque. Donc qu'est-ce que nous faisons? Ce qui nous a été demandé, c'est de nous référer aux personnes de savoir. Simplement, aujourd'hui, avec Internet, avec la télé, etc., et puis la démocratisation des livres et de la science, eh ben nous avons accès aux avis divergents des savants. À l'époque, comment ça se passait? Quand on n'était pas dans cette modernité, les gens se référaient à l'imam de leur mosquée, ou aux savants de la région, ou aux mouftis du pays. Donc, il n'y avait pas trop de divergence, parce qu'on avait une référence. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Si c'est le cas dans certains pays qui sont encore de tradition malikite, donc qui se réfèrent à l'école malikite ou une autre école, si c'est encore le cas dans certaines contrées, ça commence à se perdre. Parce qu'aujourd'hui, avec la mondialisation, on a accès, on est peut-être au Maroc, mais on sait ce qu'a dit le savant qui est en Égypte, ou qui est en Arabie Saoudite, ou les savants d'Europe. Donc on a besoin absolument, à notre époque, de certains conseils ou certaines règles à suivre, à adopter pour choisir la bonne personne, le bon savant qu'on va prendre comme référence. Très important. Et à mon avis, après étude de la question, on peut donner aux gens quatre critères qui vont leur permettre de choisir le bon savant, celui en qui on peut avoir confiance, le savant compétent, et donc forcément pouvoir dans un second temps appliquer ses avis en ayant bonne conscience. La première étape, c'est justement de sélectionner le savant qu'on va écouter et suivre. Il y a un premier critère, c'est que doit remplir cette personne qu'on va prendre comme exemple dans le domaine de religieux, c'est qu'il ait une connaissance des textes. Et ça, c'est évident, puisque s'il n'a pas une connaissance du Coran, de la Sunna du prophète, du consensus des savants, et puis des questions divergentes, c'est pas un spécialiste finalement. Donc le premier des critères qui est logique, c'est la connaissance des textes. Comment nous, qui ne sommes pas des spécialistes, comment peut-on juger si tel savant a une connaissance des textes, puisque on n'est pas du domaine? Comment faire? Là, vous avez la réputation du savant. À partir du moment où une personne qui se prononce est réputée, quand je dis réputé, ça ne veut pas dire il est connu. Quand je dis réputé, ça veut dire il passe à la télé. Non, réputé, pas chez les gens, il est réputé dans le cercle des spécialistes des savants. C'est-à-dire que dans le cercle des savants, il est réputé comme étant une personne compétente. Mais vous avez aujourd'hui des gens qui passent à la télé et qui ne sont pas des spécialistes. Mais parce qu'ils ont acquis une notoriété, parce qu'ils passent à la télé, on les prend comme référence. Or, ce ne sont pas les meilleurs. Ce n'est pas parce qu'ils passent à la télé que ce sont les meilleurs. Une connaissance des textes, parce qu'il est réputé chez les savants. Ou bien parce qu'il a une production, il a écrit un livre dans le domaine. Il a écrit un livre, une étude, une recherche, une thèse. Donc forcément, il maîtrise. Ou bien, il a un cursus, et donc des diplômes. Il est diplômé de telle grande université. Ou bien, il n'a pas eu ce parcours académique, mais il a eu un parcours classique. Il a étudié de manière traditionnelle, il a été dans un pays, il a eu la chance de côtoyer pendant une dizaine d'années un savant de renom, un savant compétent de confiance, et ce savant, il l'a éduqué, il lui a enseigné ce qu'il connaissait, et à la fin il lui a dit « c'est bon, maintenant je t'autorise à quoi ? À répandre ce savoir, et tu peux te prononcer dans les questions épineuses, dans tout ce qui est juridique. » Donc soit il a un parcours académique et on peut le juger par rapport à ses ouvrages, ou bien ses diplômes, ou bien sa réputation dans le cercle des savants, ou bien c'est une personne qui a reçu une attestation orale de la part d'un grand savant et il lui a dit « c'est bon, tu es maintenant prêt et je t'ai jugé compétent. » Vous avez un deuxième critère. En tout, il y en a quatre. Le premier, c'est la connaissance des textes. Le deuxième, la connaissance du contexte. La connaissance du contexte. Parce qu'un savant, forcément, il vit dans un contexte précis, un milieu, une société. Il doit maîtriser sa société. Ses problèmes, ses faiblesses, ses besoins, ses sensibilités, ses défis, son histoire, sa culture, les différentes composantes de la société, différentes minorités, il doit connaître, maîtriser différents paramètres dans sa société pour pouvoir se prononcer de manière pertinente. Ce qui sous-entend que il faut éviter de prendre comme référence dans le domaine religieux une personne qui n'est pas dans ton contexte. C'est à éviter. Bon, quand on n'a pas le choix, forcément on se tourne vers quelqu'un de l'extérieur, de l'étranger. Mais c'est à éviter dans un premier temps. Parce que cette personne qui vit à l'étranger a sûrement une connaissance des textes. Mais est-ce qu'il connaît ton contexte? Pas forcément, puisqu'il ne vit pas auprès de toi. Comment savoir si ce savant connaît ton contexte? La première des choses, et c'est vraiment l'idéal, c'est qu'il soit né dans ton pays. Il est né dans quoi? Dans ton pays. Donc comme il est né dans ton pays, il a grandi, il a été éduqué dans ce pays, il le connaît. Mais si ce n'est pas le cas, alors on va y aller du mieux au pire. Enfin, du mieux au moins bien. Le meilleur, l'idéal, c'est qu'il soit né dans ton contexte. Si on ne trouve pas, alors une personne qui vit dans ton contexte, il n'y est pas né, il est venu d'étranger, mais il a vécu une période assez longue pour avoir une connaissance non négligeable de ton contexte. Comme beaucoup de savants aujourd'hui en Europe. Ils sont venus de l'étranger, ce sont des Marocains, des Algériens, des Tunisiens, des Égyptiens, des Saoudiens. Ils sont venus, ils ont vécu 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Et ils connaissent le contexte, même s'il y a certaines choses qui leur échappent. Ça ne sera jamais comme une personne qui est née dans le contexte, mais c'est quand même pas mal. Si on ne trouve pas une personne qui vit dans mon contexte, alors forcément une personne qui vit autre part. Mais là encore, cette personne qui vit autre part, ailleurs, il faut également choisir parmi ces savants étrangers. Ils ne sont pas tous sur un même pied d'égalité. Parce que certains savants ont eu la chance, et parfois l'exigence de quoi ? De voyager. Et comme ils ont voyagé, ils ont une ouverture d'esprit. Ils sont partis aux États-Unis, ils sont partis en Europe, en Amérique latine, en Afrique, en Asie. Donc le fait de voyager, forcément, c'est une richesse. Ce sont des expériences. Tu entends ce que tu vois parfois en voyageant, mais tu entends surtout, on te rapporte beaucoup de choses intéressantes. Si la personne n'a pas voyagé de manière physique, peut-être a-t-elle voyagé de manière virtuelle, c'est-à-dire qu'elle s'est intéressée à ton contexte à travers Internet, à travers la télé, à travers des ouvrages. Ça encore, c'est... Bon. Et puis finalement, une personne qui ne connaît rien de ton contexte, mais qui vit dans son pays. Celui-là, il faut éviter de prendre ses avis juridiques qui sont liés à ton contexte. Parce que prendre des avis d'un savant étranger qui ne connaît rien de ton contexte, ça peut conduire à des choses très graves. Et tout à l'heure, on donnera des exemples. On a dit que ce savant doit d'abord connaître les textes, le contexte, soit il est né, soit il a vécu une partie de sa vie dans ton contexte, soit il est étranger mais il a voyagé, soit il est étranger et il n'a pas voyagé. Troisième critère, ce savant, bien évidemment, doit être pieux. Parce qu'un savant qui connaît les textes et le contexte, mais qui ne fait pas preuve de piété, il peut très bien te donner des avis religieux sous pression politique. Comme il n'a pas une foi assez forte pour résister à la pression politique, il va te donner un avis qui va en fait dans le sens de quoi ? Du pouvoir. Ou il va se taire par peur du pouvoir. Ou bien il va se prononcer dans la religion pour plaire aux gens. C'est plus le pouvoir qui l'intéresse, mais c'est le peuple. Donc là, il y a un problème dans sa foi. Il ne recherche pas à plaire à Dieu, mais à plaire aux gens. Ou bien, il fait ça pour avoir de l'argent, une notoriété. Ou bien, son intention est bonne, mais c'est une personne qui commet des grands péchés. C'est possible. Personne n'est parfait. Un grand savant qui commet des grands péchés, c'est possible. Vous avez des savants. Enfin, quand je dis des savants, attention, après on les appelle comme ça. Mais vous avez certaines personnes religieuses qui pratiquent la sorcellerie. C'est un grand péché. Mais je ne peux pas lui faire confiance. Je ne peux pas lui faire confiance parce qu'il parle au nom de Dieu et de son prophète et en même temps il est contredit. Donc je ne peux pas lui faire confiance. Ou bien, c'est quelqu'un qui vole. C'est quelqu'un qui ment, etc. Bien évidemment, la piété parfaite n'existe pas. Tout savant va commettre des péchés un jour dans sa vie. Des petits péchés, bien évidemment. Il va se repentir. Donc, c'est pas parce qu'on a entendu qu'un savant a fait une bêtise, a fait une erreur, qu'on le met de côté, on met une croix dessus. Tout le monde est sujet à l'erreur. Quand on dit la piété, c'est-à-dire qu'il fait les choses pour Dieu, et quand il fait une erreur, il la reconnaît et il se repent. Ainsi, je peux lui faire confiance. Je peux lui faire confiance. Parce que ici, on se prononce dans un domaine religieux. Et pour que ses réponses soient justes, il faut au minimum qu'il soit éclairé par la foi. Parce que Dieu a dit, celui qui craint, qui me craint, je vais lui donner, offrir la capacité de discernement. C'est-à-dire, discerner le bon du mauvais, le vrai du faux, le bien du mal. Effectivement, dans ce domaine religieux, on a besoin de cette foi qui va nous donner une clairvoyance, une capacité à discerner ce qui est bien de ce qui est mauvais, ce que désire Dieu de ce qu'il déteste. Il faut un minimum de quoi ? De foi et de piété. Connaissance des textes, du contexte, une piété, et à mon avis, il faut rajouter un quatrième critère qu'on oublie parfois, mais qui est important aujourd'hui. C'est la modération, le juste milieu. Parce que vous avez des savants, pieux, connaisseurs des textes, du contexte, mais qui virent vers les extrêmes. Et donc, il faut avoir en tête ce critère que les savants qui se valent au niveau de leur piété, au niveau de leur connaissance et de leur compétence, ne peuvent ne pas se valoir dans leur modération. On peut avoir des gens extrêmes qui penchent toujours vers la difficulté, vers la rigueur. Puis vous avez des gens qui penchent toujours vers la souplesse, vers le laisser-aller. Nous, on veut le juste milieu. Et ce juste milieu, cette modération, comment on peut la décerner chez un savant? Il a une connaissance de la divergence. Si ce savant, à chaque fois qu'il parle, il parle par rapport aux avis d'une seule école de pensée, une seule école juridique, lui, quand il te donne un avis, c'est toujours l'avis de telle école juridique. Ou bien, il cite toujours le même savant qu'il prend en référence. Quand il te donne une réponse, c'est toujours un tel a dit, un tel a dit. Et un peu de fanatisme. Et un peu de fanatisme. Donc, cette personne modérée doit, au départ, maîtriser la divergence et accepter la divergence. Il doit la maîtriser, c'est-à-dire que dans une question précise, il ne s'est pas suffi d'un seul avis, mais il a étudié tous les avis de la question. Et ensuite, il a réussi à opter pour un avis. Mais au départ, il est objectif. Il a une démarche scientifique. Il écoute tout ce que disent ses prédécesseurs, il regarde leurs arguments, et il a une méthodologie pondérée, et ensuite il arrive à une conclusion. Mais si au départ, il fait un départ faussé, pour lui, c'est les savants untel de telle tendance ou de telle école juridique, c'est eux forcément qui ont la vérité. Et donc moi, au départ, je penche vers leur avis, ben forcément les autres avis, je vais les dévaloriser. Là, il y a un problème dans ce qu'on appelle le juste milieu, la modération. Il faut une connaissance de la divergence, mais aussi une connaissance des finalités de la religion. Il faut que le savant maîtrise l'esprit de l'islam. Il ait une vue globale. Parce que certains savants maîtrisent un domaine, le domaine économique, le domaine strictement cultuel, la prière, le jeûne, le hajj, la zakat, mais quand on l'interroge dans ce qui est de l'ordre de la bioéthique, des questions sensibles comme le clonage ou comme les greffes, le don d'organes, etc., etc., il ne va pas savoir se prononcer. Parce qu'il n'a pas une vision globale de la religion. Donc, il faut ces quatre critères pour faire un tri. Pour faire un tri. Connaissance des textes. Comment savoir qu'il connaît les textes? Il a un diplôme, une réputation, des ouvrages, connaissance du contexte. dans ton pays, où il y a vécu, où il est venu faire un tour dans ton pays, il a voyagé. Troisièmement, un minimum de piété et de sincérité. Quatrièmement, le juste milieu et la modération. Mais vous savez, quand on donne ces quatre critères, on n'est pas encore sorti de l'auberge. Parce que des savants qui remplissent ces quatre critères aujourd'hui, il y en a beaucoup. Et pourtant, ils divergent encore. Voilà. Tu peux... Mais déjà, ça fait un bon tri. Quand déjà vous appliquez ces quatre critères, ça fait déjà un bon tri. Mais parmi les gens qui rempliront ces quatre critères, ils vont encore diverger. Il se peut que tu aies cinq savants qui soient connaisseurs des textes, du contexte, pieux et modérés, et pourtant l'un te dit « ça c'est autorisé », l'autre te dit « c'est interdit », l'autre te dit « c'est obligatoire », l'autre te dit « c'est déconseillé », l'autre te dit « c'est recommandé ». Mais comment tu fais? Il faut bien choisir. Comment faire? Là, il faut, après avoir fait ce travail de tri à partir de ces critères, de ces quatre critères, il faut une deuxième étape. Et cette étape, elle repose sur ta raison, sur ton analyse. C'est que tu dois ensuite réfléchir et te dire que si cet avis, en théorie, il est fondé, il est bon, il est légitime, puisqu'il a été défendu par des savants de compétents et confiants, puisqu'il répond à ces quatre critères. Oui, mais quand tu passes à l'étape de l'application de l'avis, qu'est-ce qui se passe? Parfois, en théorie, ils ont raison, mais quand on applique l'avis, parfois, ça ne marche pas. C'est pour ça que si tu as quatre avis, A, B, C, D, les avis contradictoires. Tu dois choisir parmi ces quatre avis, ils sont fondés, hein. Tu dois choisir parmi ces quatre avis le plus pertinent dans l'application. Celui qui, quand tu vas l'appliquer, il ne va pas trahir l'esprit d'Islam. Ça veut dire quoi, il ne va pas trahir l'esprit d'Islam? Ça veut dire il va dans le sens des finalités de la religion. C'est quoi les finalités de la religion? C'est ce que nous a enseigné notamment Ibn al-Qayyim, l'élève de Ibn Taymiyyah, dans une parole très importante. Qu'est-ce qu'il nous dit, Ibn al-Qayyim? Il nous dit, je vous retrouve cette parole très importante, il nous dit, « Inna shari'ata » عدل كلها ورحمة كلها وحكمة كلها ومصالح كلها. Cette religion, nous dit ce grand savant Ibn al-Qayyim, elle est dans sa totalité une justice. Elle est dans sa totalité et dans sa profondeur, hein, elle est une miséricorde. Elle est également, nous dit-il, une sagesse, et elle est finalement intérêt général. Donc regardez comment il nous résume la religion, ses finalités. La religion, c'est ce qui va dans le sens de la miséricorde, de l'intérêt général, de la sagesse et de la justice. Et ensuite il nous dit, وَإِنَّ كُلَّ مَسْأَلَةٍ فِيهَا خَرَجَتْ مِنَ الْحِكْمَةِ إِلَى الْعَبَثِ وَمِنَ الْعَدْلِ إِلَى الْجَوْرِ وَمِنَ الرَّحْمَةِ إِلَى ضِدِّهَا وَمِنَ الْمَصْلَحَةِ إِلَى الْمَفْسَدَةِ فَلَيْسَتْ مِنَ الشَّرِيعَةِ فِي شَيْءٍ وَإِنْ أُدْخِلَتْ فِيهَا بِالتَّأْوِيلِ. Regardez ce qu'il dit après. Il dit, après nous avoir défini les finalités de la religion, il nous dit, et toute question problématique dans la religion qui va trahir la miséricorde pour la difficulté, qui va trahir la justice pour l'injustice, qui va trahir la sagesse pour le non-sens, hein, quelque chose qui n'aurait aucun sens, qui serait illogique, qui ne va pas dans le sens de la logique de l'islam, est quelque chose qui va trahir également qu'est-ce qu'on a dit. On a dit la sagesse. Donc le contraire de la sagesse, c'est quoi? Quelque chose d'insensé. Quelque chose d'incohérent. La miséricorde, au contraire, ça serait quelque chose de difficile, de rigoureux, d'extrême. Le contraire de la justice est l'injustice. Et il nous reste l'intérêt général. Donc quelque chose qui irait contre l'intérêt général. Il nous dit, sache que toute question, tout avis dans la religion qui va contre ces quatre principes ou ces quatre finalités ne fait pas partie de la religion. Même si elle y est entrée ou il y est entré par l'interprétation d'un savant. Ça veut dire que quand dans la religion, il y a quelque chose qui va contre l'intérêt général, contre la logique et le bon sens, contre la miséricorde, contre la justice, sache que ce n'est pas la religion, mais c'est l'interprétation d'un savant de la religion. En fait, ce n'est pas divin, mais c'est humain. Et l'humain se trompe. Donc, toi, à ton échelle, une fois que l'avis est défendu par des savants compétents de confiance, et que tu dois encore choisir, choisis en fonction de ses finalités. Regarde si l'avis, quand tu l'appliques, il est logique. Il va dans le sens de quoi? De la logique, du bon sens. Regarde l'impact de l'avis dans ta réalité. Est-ce qu'il conduit à des injustices ou pas? Est-ce qu'il va mettre les gens dans la gêne et la galère? Est-ce que cet avis, quand on va l'appliquer, quand on va le suivre, il va créer de la zizanie? Est-ce que cet avis, quand on le met en pratique, c'est du n'importe quoi? C'est pas cohérent avec ta religion? Tu dois faire un travail. Parce que c'est toi qui es responsable. Quand tu vas l'appliquer, ne dis pas c'est le savant qui l'a dit, moi je l'applique. Tu as une part de responsabilité. C'est d'analyser l'impact de l'avis dans ta réalité. Regardez bien comment on procède. Quand il y a une divergence entre les savants, quand cette divergence est entre des savants compétents, parce que vous avez certaines divergences, certains avis, mais qui sont en fait minoritaires, marginaux, farfelus, qu'il faut mettre de côté, qui n'ont pas de fondement. Mais les avis qui ont été défendus par des grands savants, et ces avis sont divergents, vous devez, en tant que musulman, parce que vous avez une part de responsabilité, vous avez une raison. Vous devez analyser la vie, l'impact de la vie dans votre réalité. Est-ce que cet avis, il coïncide avec l'esprit de l'islam, qui sont la miséricorde, qui est la miséricorde, l'intérêt général, la justice et le bon sens, ou pas? Et là, quand tu appliques ces deux méthodes, tu t'en sors généralement bien. Tu t'en sors généralement bien. Prenons des exemples. Vous avez un avis défendu par des... Vous avez deux avis contradictoires, mais défendus par des savants qui répondent aux quatre critères. Est-ce que le visage de la femme en islam est considéré comme une nudité qu'elle doit couvrir ou pas? Ou si vous voulez, la question polémique de quoi? Du niqab, c'est ça? Du voile intégral. Vous avez des savants compétents qui ont étudié les textes et ils sont arrivés à la conclusion que, effectivement, Dieu et son prophète ont demandé à la femme de couvrir son visage. C'est une analyse, c'est un raisonnement qui se défend par des arguments du Coran et de la Sunna. Mais vous avez l'avis inverse, qui est celui de la majorité, qui dit que la femme n'a pas à couvrir son visage, ce n'est pas une nudité. Elle n'a pas à couvrir son visage, elle le découvre comme les hommes, sans problème. Vous avez maintenant une femme qui est devant ces deux avis. Au départ, elle se demande qui a prononcé ces avis. Et elle se rend compte que l'avis A et l'avis B est défendu par des savants compétents, de confiance, etc. Comment fait-elle? Elle doit bien choisir. Maintenant, elle qui vit en France, elle connaît son contexte. Elle connaît l'impact de la vie dans sa réalité. Et là, elle doit choisir l'avis qui va dans le sens de la logique, de l'intérêt général, de la justice et de la miséricorde. Et là, on ne peut pas diverger. On ne peut pas diverger. Il y a un constat, c'est qu'une femme aujourd'hui en France, en 2012, qui porte le voile intégral, c'est un non-sens. Ça va contre l'intérêt général, ça va conduire à des injustices et ça va la mettre dans la galère et la gêne. Donc cet avis, s'il se défend en théorie par des textes, interprétation de textes, dans la réalité, il n'est pas défendable. En tout cas, dans le contexte où vit cette femme. Donc, la question, c'est pourquoi opter pour un avis qui va contre l'esprit de l'islam dans le contexte où tu es, et tu délaisses un avis qui va dans le sens de l'islam dans ton contexte, pourquoi pencher vers cet avis et pas vers un autre? Puisque les deux avis, on a dit qu'ils se valent. On dit pourquoi est-ce qu'ils se valent? Parce qu'ils sont fondés tous les deux. Ils ont été défendus par des grands savants. Mais est-ce qu'ils se valent en application? Ils ne se valent pas. Donc pourquoi pencher vers cet avis et pas vers un autre? C'est ce qu'on a dit. Ce qui va déterminer qu'on penche vers un avis ou vers un autre, c'est cette analyse de l'impact de l'avis dans ma réalité. Un autre avis sur, cette fois-ci, c'est un avis qui est majoritaire en Arabie Saoudite. La femme en Arabie Saoudite n'a pas le droit de posséder un permis de conduire et donc de rouler. Et ils le défendent par des textes ou par une interprétation de textes ou par une analyse religieuse. Cet avis, on va dire qu'en théorie, il a été défendu par des grands savants d'Arabie Saoudite. On va dire qu'ils maîtrisent les textes, le contexte, ils sont pieux et ils sont modérés. On va partir de ce principe, que cet avis, il est fondé, en théorie, il est bien. Mais quand on passe à son application, est-ce qu'il va dans le sens de l'islam, dans le sens de ses finalités, ou bien ce qu'il conduit à l'inverse? Il conduit à l'inverse. En Arabie Saoudite, peut-être, mais à coup sûr, en France. C'est même une question qui se pose. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut prendre l'avis des savants d'Arabie Saoudite et de dire à certaines femmes musulmanes, vous n'avez pas le droit de posséder un permis? Non, c'est un non-sens. C'est un non-sens. Vous avez un autre avis qui dit que la femme doit absolument se faire accompagner par quelqu'un de sa famille lorsqu'elle voyage. C'est un avis qui se défend en théorie. Il y a des textes religieux qui iraient dans ce sens. Certains savants, même beaucoup de savants, ont défendu cet avis. Maintenant, cet avis, quand on veut l'appliquer dans notre réalité, est-ce qu'il est pertinent ou pas? Non, il n'est pas pertinent. Il va contre le bon sens, il va contre l'intérêt général, il conduit à des injustices et il met en galère les gens. Parce qu'une personne qui veut aller, une femme qui voudrait aller sur Paris, qui voudrait aller dans le sud de la France, rendre visite à ses beaux-parents, qui voudrait tout simplement aller accomplir une umrah, ou le Hajj, ou bien qui voudrait partir au bled, passer des vacances, et qui ne serait pas accompagnée par un homme de sa famille, avec qui elle ne peut pas se marier. Vous imaginez dans quelle galère on va mettre les gens? Donc, si certains avis se défendent en théorie, dans la pratique, dans l'application, ils ne sont pas défendables. Et c'est pour ça qu'il faut choisir selon ces critères qui sont très importants. On peut prendre d'autres exemples. Par exemple, la zakat, polémique qui revient à chaque année, la zakat à la fin du mois du Ramadan, est-ce qu'on la sort en nature ou bien en argent? Vous avez certaines personnes aujourd'hui qui persévèrent, qui insiste et qui ramène des sacs de riz, des sacs de pâtes ou je ne sais trop quoi, comme zakat à la fin du Ramadan. en se basant sur des avis fondés par des grands savants. Mais le problème, c'est que quand on applique cet avis, qui se vaut en théorie, il conduit à des choses qui sont contraires à l'esprit d'islam. Donc il faut le délaisser pour un autre avis, autant fondé, mais qui est pertinent dans ta réalité. Tu vois ? Si, en théorie, on les met sur un même pied d'égalité, parce qu'ils ont été défendus par des grands savants, dans l'application, on dit qu'ils ne sont pas pareils. Ils ne sont pas pareils. Et donc, s'il y a un choix à faire, il faut choisir l'avis qui te dit que la zakat, tu la sors en argent, parce que ça va dans le sens de l'intérêt des pauvres, parce que c'est plus facile à distribuer, etc., etc. À notre avis, dans notre religion, qui nous dit la prière à la mosquée en groupe est obligatoire. Tes 5 prières, tu dois les prier à la mosquée en groupe. C'est un avis dans la religion qui se défend en théorie. Il se défend en théorie. Les grands savants ont opté pour cet avis. Mais quand tu veux l'appliquer, cet avis, ici, dans un contexte comme le nôtre, même dans le monde entier, c'est pas propre à notre contexte, est-ce que c'est vivable ? Est-ce que c'est vivable de prier ces 5 prières à la mosquée ? Tout le monde, tous les hommes, dès qu'ils atteignent l'âge de la puberté, qu'ils doivent prier de manière obligatoire, doivent venir à la mosquée prier les 5 prières ? Et s'ils ne le font pas à la mosquée, ils ont commis un péché ? Mais tout le monde va être dans la désobéissance. Vous imaginez la personne qui travaille ? Le chauffeur de bus, le chauffeur de taxi, on est dans un cas où on ne peut pas dire que les deux avis sont pareils. Parce que l'un conduit à de la gêne, à de la contrainte, à de l'injustice parfois, et l'autre, hein, il facilite aux gens leur religion, il ne les égare pas, etc., etc. Et d'autres questions comme celle-ci, peut-être un peu différentes. On va prendre une dernière question, peut-être celle du don d'organes. Bon, le don d'organes, c'est une question, on va dire, contemporaine, forcément. Là, les savants contemporains ont divergé, n'est-ce pas ? Certains sont d'avis que c'est interdit en islam de faire un don d'organes, et d'autres l'autorisent. On peut dire que, bon, quand on regarde les arguments des uns et des autres, on pourrait, nous, en tant que, on n'est pas des spécialistes, je veux dire que si vous entendez un savant qui se prononce sur cette question, et qui est d'avis que faire un don d'organe est interdit, il va vous apporter des arguments, il va vous convaincre. Parce que lui, il a de la connaissance. Il va vous apporter des paroles de Dieu, de son prophète, des arguments. Il peut vous convaincre. Et si vous écoutez l'autre savant qui est d'un avis contraire, il va autant vous convaincre. Vous avez compris ? Il va autant vous convaincre. Parce que tous les deux sont des spécialistes. Et comme nous, on est ignorants, forcément, on va admirer celui qui a de la connaissance. Mais quand on passe à notre réalité, quel est l'avis le plus intéressant, le plus logique, qui est vraiment l'intérêt, qui remplit les finalités de l'islam ? C'est l'avis qui autorise le don d'organes, bien entendu avec certaines limites et certaines règles. Bien évidemment, celui qui fait un don d'organes ne doit pas mettre en danger sa vie. Évidemment, puisqu'il est d'abord responsable de sa santé et non pas celle d'autrui. Mais celui qui va faire un don de rein, et qui peut vivre avec un seul rein, ou une partie de ses poumons, il peut vivre avec l'autre partie, ou je ne sais trop quel organe du corps qui ne nous handicape pas, ben ça va dans le sens de l'islam, ça va dans le sens de la préservation de la vie humaine, dans le sens de faire du bien aux gens. C'est même peut-être une sadaqa jariya, c'est-à-dire une aumône qui va perdurer après ta vie, puisque c'est ça qui va préserver la santé de cette personne. Tout ce qu'elle fera de bien grâce à sa santé sera une récompense pour toi, etc., etc. Donc vous avez beaucoup de questions qui font polémique entre les gens, et chacun se réfère à un savant en particulier, n'est-ce pas ? Chacun dit, c'est un tel qui est le plus compétent, un tel qui est digne de confiance. D'accord, on vous accorde que tous les savants se valent en théorie, qu'ils ont toutes des connaissances, qu'ils sont pieux. Ils répondent aux quatre critères qu'on a dit. Mais on a quand même une raison et une responsabilité, c'est qu'est-ce qui va se passer quand je vais appliquer tel ou tel avis. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Pourquoi les savants divergent-ils ? Pourquoi les savants divergent-ils ? Ben, le hadith nous l'a bien dit, parce qu'il y a quelque chose qui est clairement défini, le licite et l'illicite, et entre les deux, il y a un domaine équivoque. Ce domaine équivoque, qui prête à confusion, qui est ambigu, c'est lui qui va générer de la divergence. C'est lui qui va générer de la divergence. Cette divergence, elle s'explique par quatre facteurs. La divergence entre les savants s'explique par quatre facteurs qu'on peut résumer. Le premier facteur, c'est la connaissance ou la méconnaissance d'un savant d'un texte religieux. Un exemple. Quand le prophète est décédé, sallallahu alayhi wa sallam, il y a une divergence entre les compagnons. Où va-t-on enterrer le prophète ? Bonne question. Où va-t-on enterrer le prophète ? Là, ils ont eu des avis divergents. On va l'enterrer ici, non plutôt là-bas. Faut-il l'enterrer à la Mecque, là où il est né ? Le laisser à Médine ? Ou dans le cimetière avec ses compagnons ? Où l'enterrer ? Ben, ils ont divergé parce que le prophète n'a, en tout cas, d'après leur connaissance, n'a rien dit, il ne s'est pas prononcé. Mais, en fait, il s'est prononcé. Mais il n'était pas au courant. Il n'était pas au courant. C'est Aïcha radiallahu anha, d'après mes souvenirs, qui va dire, j'ai entendu le prophète dire que les prophètes sont enterrés dans l'endroit même où ils sont décédés, où ils sont morts. Donc il est mort ici, dans la chambre de son épouse, on l'enterre ici même. Donc voilà, quand Aïcha a rapporté le hadith, elle a mis fin à la divergence. Parce que ici, la cause de la divergence, c'était quoi ? C'était leur méconnaissance de la parole du prophète. Ou bien, Omar ibn al-Khattab, quand il était calife, il est parti, il est sorti en expédition avec son armée, et on leur a dit que la ville vers laquelle il se dirigeait était atteinte par la peste. Et ils se sont posé une question. Est-ce qu'on continue et on entre dans la ville ou bien on fait demi-tour ou on change de chemin ? Et Omar ibn al-Khattab, il a voulu entendre l'avis des compagnons. Alors il a rassemblé une partie des compagnons, donnez-moi votre avis, ils ont été partagés. D'autres compagnons, ils ont été partagés. Parce qu'ils n'ont pas en tête une parole de Dieu ou du prophète qui leur indique ce qu'il faut faire. Puis le prophète n'est plus là, n'est plus présent. Et Omar ibn al-Khattab, au final, après avoir écouté les deux avis, ceux qui sont pour continuer, d'autres qui sont pour rebrousser chemin, il va finalement opter pour faire demi-tour. Et là, il y a un homme qui va venir et qui va dire à Omar ibn al-Khattab, qui va les rejoindre en fait. Il va dire, j'ai entendu le prophète dire, si vous entrez dans un endroit où il y a la peste, n'y sortez pas, restez-y. Et si vous n'y êtes pas encore, arrivé, alors faites demi-tour, n'y entrez pas. Il a dit, Dieu merci, j'ai pu prendre l'avis qui correspondait à celui du prophète. Et en fait, cet avis, c'est un avis même médical, c'est-à-dire que quand on est dans un endroit où il y a une maladie, pour ne pas transporter le virus ou ne pas contaminer, il ne faut pas sortir. Mais si on n'y est pas entré, alors on n'y va pas. D'accord ? Donc ça, c'était la recommandation du prophète et c'est ce qu'avait fait Omar. Mais qu'est-ce qui a provoqué la divergence entre les compagnons ? C'est leur méconnaissance du hadith. D'accord ? Parfois, ce n'est pas ça le problème. C'est vrai que certains savants vont diverger parce que un tel a eu connaissance d'un hadith et un autre n'y a pas pris connaissance, ne le connaissait pas. Ça, c'est possible. Parce que certains savants, ils ne peuvent pas tout connaître. Oui, même les compagnons entre eux, ils ne pouvaient pas tout retenir. Ils n'ont pas tous assisté aux assemblées du prophète. Donc, ils ont pu diverger entre eux, les compagnons, parce qu'un tel avait plus de connaissances et l'autre en avait moins. Et les savants eux-mêmes, ils ont pu diverger à cause de ça. Mais parfois, les savants ont devant leurs yeux le même propos du prophète, le même hadith. Mais vous savez pourquoi est-ce qu'ils divergent? Pas parce qu'ils ne connaissent pas le hadith, il est devant leurs yeux, mais parce qu'ils ne sont pas d'accord sur le degré d'authenticité du hadith. Un tel dit « cette parole du prophète est faible » et l'autre dit « elle est authentique ». Donc, forcément, lui, il va le prendre en compte et l'autre, il va le rejeter ou en tout cas le mettre en seconde position. Donc parfois, ils ont la connaissance d'un même propos du prophète, mais ils ne sont pas d'accord sur sa validité ou sur son degré d'authenticité. Et ça, c'est une cause très grande de divergence entre les savants. Ils ne sont pas d'accord. Est-ce que ce hadith, il est fiable ou pas? Et vous savez d'où vient cette divergence? Elle vient de la chaîne du jugement des transmetteurs. Puisque ces savants-là, ils n'ont pas connu le prophète. Donc, comment leur est parvenue la parole du prophète? À travers une chaîne de transmission, des transmetteurs. Et ces transmetteurs, les savants vont diverger. Est-ce un transmetteur fiable qui a bien mémorisé la parole du prophète, qui l'a transmise fidèlement? Y a-t-il une probabilité de transformation du hadith? Est-ce une personne de confiance ou est-il capable de mentir, de modifier la parole du prophète? Ils vont diverger sur le jugement du transmetteur. Je vous donne un exemple. L'imam Abu Hanifa et son élève Mohammed, deux grands savants. Ben vous savez, quand ils jugeaient la chaîne de transmission d'un hadith, et donc le transmetteur, le rapporteur du hadith, ils avaient des critères différents. Notamment, l'imam Abu Hanifa pour lui, quand on connaît l'identité d'un rapporteur du hadith, quand on dit son identité, c'est-à-dire je sais comment il s'appelle, où a-t-il vécu, quand est-il né, la date de son décès, ses voyages, donc j'ai une connaissance sur son identité, sur son histoire, mais je n'ai pas de connaissance sur son intégrité. Est-ce que c'est une personne au niveau religieux de confiance ou pas? Donc regardez, on a un cas où le rapporteur, on sait c'est qui, on connaît son identité, mais on ne connaît pas son intégrité. Est-ce qu'il est digne de confiance ou pas? Et bien là, l'imam Abu Hanifa part du principe que le rapporteur, qui est musulman, est intègre. Même si je n'ai pas d'informations qui me disent que c'est quelqu'un d'intègre. Il a pris comme principe que la personne, tout musulman, est intègre. Et le prophète, c'est ce qu'il a dit. Tout musulman est intègre. Donc lui, il part du principe que le rapporteur est digne de confiance. Même si je n'ai pas d'informations qui me l'indiquent. Parce que pour moi, le principe, c'est qu'il est intègre, sauf preuve du contraire. Et bien son élève n'est pas d'accord. Mohammed part du principe que le rapporteur est douteux, sauf preuve du contraire. Il faut que je trouve une information qui m'indique qu'il est intègre pour que je le prenne en considération. Donc ça va tout changer. C'est-à-dire que dans une chaîne de transmission, si Abu Hanifa recherche des informations sur le transmetteur, qui ne trouve rien, qui indique que c'est quelqu'un de confiance, il l'accepte. Mohammed dit non, je n'ai rien qui m'indique que c'est quelqu'un de confiance, je le rejette. Et en fait, ça peut s'expliquer par quelque chose. C'est que l'imam Abu Hanifa, à quelle époque a-t-il vécu? À l'époque des tabi'in. Les tabi'in, c'est la deuxième génération. Le prophète a dit, les gens les mieux guidés, c'est ma génération, ceux qui les suivent et ceux qui viendront après. Donc le prophète a qualifié trois générations successives d'intègre. Donc l'imam Hanifa qui a connu une génération, qui fait partie des trois, il se dit, le prophète a dit qu'ils étaient intègres. Donc c'est tout, ils sont intègres. J'en fais un principe. L'imam Muhammad qui vient dans un autre contexte, il a connu une autre génération, qui n'a pas été qualifiée par le prophète comme bien guidée. Et à son époque, peut-être que le mensonge était monnaie courante. Peut-être qu'à son époque, il y avait beaucoup d'arnaques. Des gens n'étaient plus dignes de confiance. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit non. Mon époque a changé, les gens ne sont plus intègres. Donc moi, je pars du principe qu'ils sont douteux. Donc, l'une des raisons de la divergence, qui explique la divergence, c'est quoi? C'est soit la méconnaissance du hadith, ou la divergence dans son authenticité. Ça, c'était le premier facteur. Le deuxième facteur, il est lié au contenu du hadith, au contenu de la parole du prophète ou de la parole de Dieu. On n'est plus dans la chaîne de transmission, mais on est dans le contenu même de la parole du prophète ou de Dieu. Les savants vont diverger sur la compréhension du texte lui-même, l'appréciation du texte. Et ça, c'est souvent lié à la langue arabe. Parce que la langue arabe est riche, elle est complexe parfois. On va la comprendre de manière différente. Je vais vous donner un exemple de divergence. Regardez, je vous cite un hadith, d'après mes souvenirs, on nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était, il y a eu la bataille de Uhud, la deuxième grande bataille, contre les polythéistes de la Mecque, il y a eu de nombreux morts musulmans. On nous rapporte que le prophète, je vous utilise le terme arabe, je vous l'emploie, salla sur ou pour les morts martyrs de Uhud. Ici, les savants, ils vont diverger sur le sens de salla. Comment vous traduisez, vous comprenez salla? Ça vient de salat. Salat, la prière. Donc, le prophète a prié sur les morts martyrs de Uhud. Donc, certains savants vont dire, quand un martyr décède, on fait la prière mortuaire. On accomplit la prière mortuaire sur le martyr. Et d'autres savants vont dire non. Ici, le mot salla, le verbe salla, c'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. C'est pas salla au sens de la prière rituelle. Non. En arabe, salla, son sens linguistique, c'est invoquer. Une invocation. Quand je lève les mains et j'invoque Dieu, en arabe, on peut dire j'ai fait une salat. En arabe, si vous cherchez en dictionnaire, salla, ça veut dire invoquer, faire une invocation. Mais ça veut aussi dire, dans son sens religieux, spécifique, faire la prière. Comme en français, quand on dit je prie, ça veut autant dire, en tout cas chez les chrétiens, faire une invocation, la prière, c'est une invocation. Mais nous, quand on l'utilise j'ai prié, c'est pas j'ai fait une invocation, c'est j'ai accompli la salat. Donc certains savants vont donner au verbe « salla » le sens de « invoquer ». Donc ils vont dire « on ne pratique pas la prière mortuaire sur les morts martyrs ». Donc, est-ce qu'on accomplit la prière funéraire sur les martyrs? D'où vient la divergence, entre autres? C'est le verbe « salla ». Quel sens donnes-tu au verbe « salla » Un autre exemple. Cette fois-ci, c'est plus un problème de le sens d'un mot, mais c'est le sens d'une phrase. Donc, c'est la divergence ici, elle est de l'ordre de la grammaire, plus du vocabulaire, mais de la grammaire. Le prophète dit zakatu al-janin, zakatu ou bien zakata ummi. Je vais vous traduire. Je vais vous donner deux traductions contradictoires, mais qui sont toutes deux valables. Selon que tu vas mettre un « ou » au-dessus du terme « zakat », ou bien un A, donc la voyelle O ou la voyelle A, et ça va changer tout le sens de la phrase. Ici, c'est la question de si une personne égorge, par exemple, une vache qui a un petit dans son ventre, donc un veau. Et partons du principe que ce veau a 8 mois. Donc il est vraiment constitué. Ça représente de la viande. Si une personne égorge une vache, la viande de la vache est licite. Mais faut-il égorger le petit qui est dans son ventre pour manger de sa viande? C'est une question que se sont posées les savants. Et bien, ce hadith, il veut autant dire que l'abattage de la mère vaut pour son petit. Il veut autant dire il faut abattre le petit comme on a abattu la mère pour manger de sa viande. Donc la divergence, est-ce qu'on peut manger la viande d'un veau qui était dans le ventre de sa mère après avoir abattu sa mère, ça revient à quoi? À une voyelle, ou bien A. Mais ça change le sens de la phrase. Par exemple, maintenant on va partir dans autre chose, toujours lié à la langue arabe et au contenu du texte, est-ce que tu donnes à la phrase un sens propre ou un sens métaphorique? Est-ce que tu le prends au sens littéral ou bien c'est une image? Divergence entre les savants, si un homme touche la main d'une femme, doit-il faire ses ablutions pour prier ou pas? Est-ce que le fait de toucher de peau à peau une femme, ou le contraire, une femme qui touche la main de son mari, par exemple, hein, qui touche la main de son mari, par exemple, de peau à peau, est-ce qu'il doit refaire ses ablutions pour prier? C'est une question que se sont posées les savants. D'où vient la divergence? Elle vient d'une parole de Dieu. Quand il nous cite les causes annulatrices des ablutions, il nous dit « Aoula mastumul nisa » ou « Lorsque vous touchez les femmes ». Ben, certains savants, comme les savants Chaféri, ont pris le verbe « toucher » au sens littéral. « Toucher », c'est comme ça. Donc, quand un mari touche sa femme, par exemple, il doit recommencer ses ablutions. Puis certains savants ont dit non. Notamment à Abdullah ibn Abbas, qui est le plus grand exégète du Coran, ici c'est une image. Allah Azza wa Jal parle de manière pudique. Il nous parle du rapport conjugal ou du rapport sexuel à travers une image. Toucher, ici c'est tout, ce n'est pas le toucher, neutre. Non. C'est ici une image qui renvoie au rapport conjugal. Donc, toucher n'annule pas les ablutions. Donc ici, le problème, c'est quoi? C'est dans le sens métaphorique ou le sens propre. Vous connaissez tous, je pense, cette histoire quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, quand il devait partir chez les Banu Qurayza, une tribu juive, il leur a dit: vous ne prierez la prière de l'Asr qu'en arrivant chez eux. Vous ne prierez la prière de l'Asr que chez les Banu Qurayza. Et en chemin, le soleil allait se coucher. Ils n'avaient pas prié l'Asr. Et comme le soleil allait se coucher, et que la route n'était pas encore terminée, ils se sont posé la question: est-ce que on prie maintenant, avant que l'heure du Maghrib n'arrive, ou bien doit-on appliquer à la lettre ce qu'a dit le prophète et ne prier qu'en arrivant, même si c'est après le coucher du soleil? Mais ils ont divergé. Un groupe a compris le propos du prophète dans son sens littéral et d'autres l'ont pris au sens figuré. C'est-à-dire que le prophète, il a voulu simplement nous presser, nous dire: dépêchez-vous, je veux que vous priez la prière de l'Asr là-bas. C'est une manière de les précipiter. Et bien évidemment, si la prière va passer, il faut la prier. Donc, ils l'ont compris de manière différente. Et quand ils sont revenus chez le prophète, ils ont soumis leur divergence et le prophète n'a pas voulu se prononcer. Parce que son propos était ambigu. Et donc, tous les deux avaient en théorie un peu raison, même si effectivement le prophète n'a voulu dire qu'une seule chose, mais laquelle il n'a pas voulu créer de polémique, ou puisque de toute façon c'était déjà passé. Ça, c'était le deuxième critère de divergence, ou facteur de divergence, c'est par rapport au contenu. Comment on comprend le contenu du hadith? Maintenant, vous avez un troisième facteur. Les savants peuvent avoir le même hadith devant eux. Pour les deux savants, il est authentique. Ils le comprennent de même pareil. Ils le comprennent pareil. Il est clair pour eux. Pourtant, ils divergent. Pourquoi? Parce que il y a la présence d'un autre texte qui vient le contredire. Parce que dans une même question, tu peux avoir plusieurs paroles du prophète. Tu peux avoir une parole du prophète, une parole de Dieu dans une même question. Et parfois, les savants disent, mais oui, on comprend bien ce hadith, c'est ça son sens, il est clair. Mais ici, il y a un autre hadith qui paraît contradictoire. Et là, ils vont diverger sur comment rétablir la cohérence entre les deux textes. Parce que, bien évidemment, le prophète ne peut pas se contredire. Ah oui, est-ce que le prophète va se contredire? La règle, c'est qu'il ne se contredit pas. Quand il dit quelque chose, c'est logique, il y a une logique. Est-ce que le prophète va contredire le Coran? Non, c'est pas possible. Donc la contradiction, elle est en fait dans mon esprit. Mais il faut que je fasse un travail de quoi? D'interprétation pour trouver un terrain d'entente. Et les savants vont diverger. Comment trouver un terrain d'entente entre les deux textes en apparence contradictoire? Je vous donne un exemple. Les savants ont divergé sur le sommeil. Est-ce que le sommeil annule ou pas les ablutions? Enfin, non, c'est pas ça. La question, c'est quel type de sommeil annule les ablutions? Est-ce que c'est n'importe quel sommeil, à partir du moment où tu t'endors, tu dois recommencer tes ablutions, ou bien c'est un certain type de sommeil? D'où vient la divergence? En l'occurrence, c'est qu'il y a un hadith authentique rapporté par Anas ibn Malik qui dit qu'un jour le prophète s'est retardé pour la prière de l'Isha, la dernière prière nocturne. Et quand il est revenu, les compagnons étaient, beaucoup d'entre eux étaient endormis. Et Anas dit, je les ai vus adossés au poteau, au pylône, au tronc d'arbre de la mosquée, et leur menton touchait leur poitrine. Donc ils s'assoupissaient, ils s'endormaient. Et ils se sont levés quand le prophète est venu et ils ont prié sans refaire leurs ablutions. Donc là, vous avez un certain type de savant qui va dire, ce qui annule les ablutions, c'est quoi? C'est le sommeil profond. Or, ici les compagnons, c'était un sommeil léger. Parce que Anas et Malik dit que leur menton touchait leur poitrine, ils faisaient comme ça. Donc c'était un sommeil léger. Et d'autres savants vont dire non. Ce n'est pas un sommeil léger. C'est un sommeil, c'est la position du dormeur qui va, qui va en fait me dire si les ablutions sont annulées ou pas. Parce que ici, ils étaient assis. Donc quelqu'un qui s'endort assis n'annulera pas ses ablutions. Ce qui va annuler les ablutions, c'est quoi? C'est le fait de dormir allongé. Donc certains vont prendre du hadith la position du dormeur et d'autres vont prendre la légèreté ou la profondeur du sommeil. Elle est où la contradiction? La contradiction est que on a un propos du prophète qui dit quand les yeux se ferment, l'orifice s'ouvre et il peut y avoir un gaz. Donc quand tu dors, qu'est-ce qui fait que tu dois recommencer tes ablutions? C'est que quand tu dors, tu n'es pas conscient, et donc tu peux émettre un gaz. Et le gaz, bien évidemment, il annule les ablutions. Et ici, le prophète, il est resté général. Il n'a pas distingué la profondeur de la légèreté du sommeil, il n'a pas parlé de la position du dormeur. Donc certains savants vont prendre ce hadith et dire, à partir du moment où tes yeux se ferment, c'est tout. Tes ablutions sont perdues. Et d'autres vont dire non, ici on a un texte rapporté par Anas ibn Malik qui nous prouve que Tu peux dormir et pourtant tes ablutions ne sont pas annulées. Donc il y a ici la contradiction, un propos général, un propos particulier. Comment faire pour trouver un terrain d'entente? Ben, certains vont dire ça dépend de la position, d'autres vont dire ça dépend de la profondeur ou de la légèreté du sommeil. Un autre exemple. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le défunt musulman souffre. Hein, il souffre quand sa famille pleure. Quand une partie de sa famille, quand sa famille pleure d'une certaine manière. Certains, Aïcha radiallahu anha a dit, non, le prophète n'a pas dit ça. Quand on lui a rapporté que Omar ibn Khattab a dit ça, elle a refusé. Elle a dit, non, le prophète n'a pas pu dire ça. Puisque Dieu dit, وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Allah Azza wa Jal a dit qu'aucune personne ne va supporter le fardeau d'autrui. C'est-à-dire que je ne vais pas payer pour les péchés des autres gens. Or, ici, la famille pleure d'une certaine manière, de manière exagérée ou je ne sais trop quoi, et le défunt souffre. Donc, il est en train de payer pour quelque chose que fait sa famille. Ce n'est pas logique. C'est contradictoire avec le Coran. D'après elle, les savants ont dit non, il n'y a pas contradiction. Ce qu'a dit Omar, c'est vrai. Le prophète l'a vraiment dit, c'est authentique. Alors, comment faire pour trouver un terrain d'entente? Ils vont diverger. Certains vont dire, en fait, il souffre s'il n'a pas mis en garde sa famille contre ses pleurs qui s'accompagnent de choses extravagantes comme se lacérer le visage, déchirer les cheveux ou s'opposer au destin, exagérer dans ses pleurs. Donc, s'il n'a pas éduqué sa famille pour qu'il n'adopte pas cette attitude quand il va décéder, eh bien, il va payer. Puisqu'il est en partie responsable. Il devait les éduquer dans le sens contraire. D'autres vont dire non. Non. En fait, il va souffrir dans sa tombe si c'est dans le cas où il aurait dit dans son testament « Faites ceci quand je décéderai ». C'est-à-dire que quand je vais décéder, je veux que des gens pratiquent certaines choses quand je mourrai, qu'ils pleurent d'une certaine manière, en ma mémoire, etc. Dans le cas où il l'aurait stipulé dans un testament. Et d'autres vont dire non. En fait, vous avez tous tort. Parce que vous avez pensé que la souffrance ici du défunt, elle signifie un supplice. Vous avez dans votre tête une contradiction entre le fait que la famille pleure d'une certaine manière et que le défunt souffre. Comme si il était puni. Mais qui vous a dit que quand le défunt, dans sa tombe, souffre, il est puni? Est-ce que quand tu souffres, t'es forcément puni? Non, puisque le prophète a dit que le voyage était pas une partie de plaisir, mais une partie de tourment, une partie de supplice. Une souffrance, en fait, si vous voulez. Parce que celui qui voyage délaisse sa famille, il ne mange pas comme il veut, il ne dort pas comme il veut. Est-ce que quand tu voyages et que tu souffres parce que tu ne manges pas quand tu veux, tu ne dors pas quand tu veux, tu as quitté ta famille, est-ce que Dieu te punit? Est-ce que ça veut dire que Dieu te punit si tu souffres? Non, c'est une souffrance naturelle. Donc, l'imam Ibn Taymiyyah nous dit qu'en fait, le défunt, quand il souffre, ça ne veut pas dire que Dieu le punit. Il souffre comme toute personne souffrirait en entendant sa famille pleurer. D'accord? Donc c'est une souffrance naturelle, qui n'est pas une punition de Dieu. Il dit, c'est comme quand tu entends des bruits dérangeants. Ben, tu es dérangé, tu souffres, mais ça ne veut pas dire que Dieu te punit. Donc regardez, en apparence, il y avait une contradiction entre la souffrance, le dérangement du défunt et les pleurs de la famille. Et les savants vont diverger sur comment trouver un terrain d'entente. Et ça va faire des avis divergents. Je vous donne un dernier exemple dans ce facteur, celui de la contradiction, de la présence d'un texte contradictoire. Est-ce que pour un homme, le fait de toucher de sa main sa verge annule ou pas les ablutions? C'est une question que se sont posées les savants. Parce qu'un jour, un homme a posé la question au prophète. Si je touche ma verge, est-ce que ça va annuler mes ablutions? Le prophète a dit, c'est une partie de ton corps. Autrement dit, ça annule les ablutions. C'est comme si tu touchais ta main ou ta tête. Ça n'annule pas les ablutions. C'est une partie de ton corps. Et on a un autre texte qui est contradictoire, où un homme dit au prophète, pose la question, hein, si il m'arrive de toucher ma verge, est-ce que mes ablutions sont annulées? Et il va lui dire oui. Hein. Ou bien il a dit dans un hadith, celui qui touche sa verge, qu'il recommence les ablutions. Donc, à un moment donné, il dit que ça annule, et à un autre moment, il dit que ça n'annule pas. C'est contradictoire, c'est soit l'un, soit l'autre. Les savants vont diverger. Comment trouver un terrain d'entente? Ce qu'ils font au départ, c'est qu'ils disent, on va d'abord voir si ces deux hadiths se valent. Et d'emblée, certains vont dire, non, ce hadith-là, il est faible. Je le mets de côté. C'est celui-là qui est vrai. Donc ça, le prophète ne l'a pas dit, en fait. C'est ça qu'il a dit. Mais parfois, les deux textes sont authentiques. Et pourtant, ils sont contradictoires. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, on va essayer de quoi? D'interpréter, de trouver un terrain d'entente. Parfois, ils n'y arrivent pas, comme ici. Ils n'y arrivent pas. Certains ont essayé, mais la majorité ont dit non. Là, c'est contradictoire. Ça annule, ça n'annule pas. Je ne peux pas non plus interpréter une interprétation tirée par les cheveux. Il faut quand même rester logique et... Bon, donc ils ont dit, ben maintenant, il y a contradiction, contradiction qu'on ne peut pas résoudre, donc il faut choisir. Là, il faut sélectionner. Comment je sélectionne? Là, ils se demandent, est-ce que on connaît la date, le moment où le prophète a prononcé ses paroles, et si on sait que cette parole a été dite avant et celle-ci après, qu'est-ce qu'on prend en considération? Ben, le dernier, parce que c'est le dernier mot du prophète qui prime. Il a peut-être changé d'avis, ou Dieu lui a dit de changer. Au début, c'était peut-être autorisé, après c'est devenu interdit. Et ça, c'est présent. Et c'est ce qu'on appelle l'abrogation. C'est-à-dire que le prophète abroge ce qu'il avait dit auparavant. Comme au départ, quand le prophète a dit, hein, celui qui mange une nourriture qui a été cuite par le feu, il doit refaire ses ablutions. Et à la fin, un compagnon a dit, la dernière des choses que le prophète nous a dit, c'est de ne pas refaire nos ablutions quand on mange une nourriture cuite par le feu. Donc ça a été abrogé. Au départ, c'était comme ça et ça a changé. D'accord? Dernier facteur de divergence, on a dit d'abord la connaissance ou la méconnaissance d'un propos de Dieu, du prophète, ou bien on n'est pas d'accord sur son authenticité. Ça crée la divergence, oui. Deuxièmement, c'est authentique, on accepte les deux hadiths, ou le hadith, on l'accepte, mais on le comprend différemment. Donc, deuxième facteur de divergence, la compréhension du contenu du hadith. Troisièmement, la présence d'une contradiction, un autre texte qui vient contredire. Quatrièmement, et ça aussi, c'est une grande source de divergence, c'est que les savants n'ont pas les mêmes méthodologies. Ils ne réfléchissent pas pareil. Maintenant, on n'est plus dans quelque chose qui est rattaché au texte. Non, c'est rattaché à l'esprit du savant. Ils ne réfléchissent pas pareil. Ils ont des méthodes, des méthodologies, des critères différents. On donne un exemple. Vous avez l'imam Malik qui avait comme source de référentiel, comme source de loi, la coutume des gens de Médine. Si les gens de Médine faisaient quelque chose dans un domaine particulier, pour lui, c'était source de loi. Par exemple, on peut diverger sur la quantité qu'il faut donner comme zakat après le ramadan. par exemple, on va prendre un exemple, pas vrai, hein, mais un exemple, 4 kilos ou bien 5 kilos, combien on va donner à l'époque, 4 kilos ou bien 5 kilos de riz en zakat? Les savants vont diverger sur la quantité. L'imam Malik va dire, moi c'est très simple, j'observe ce que font, ce que pratiquent les gens de Médine, et je dis que c'est ça que le prophète voulait. Même si vous m'apportez un propos du prophète qui dit le contraire, moi je ne prends pas en considération, non. Parce que moi je considère que les gens de Médine, ce sont eux qui ont vécu au temps du prophète, ou en tout cas ce sont les générations qui ont vu les compagnons, ces compagnons ont vu le prophète, donc ça s'est transmis de génération en génération, ça ne peut être que vrai. Et pour moi, ça a du poids. Les autres savants vont dire non, c'est pas un critère. Parce que les compagnons ne sont pas qu'à Médine. Il y en a en Irak, il y en a en Égypte, il y en a partout. Donc pourquoi prendre comme référence ceux qui sont à Médine et les autres savants et les autres compagnons qui ont été partout dans la contrée, dans les contrées de l'Empire musulman. Je vous donne un exemple. Un problème au niveau de l'analyse, de la méthodologie. Il y a un hadith qui nous dit que on ne doit choisir pour le sacrifice comme bête, on ne doit pas prendre comme bête à sacrifier une bête, donc un mouton par exemple, qui serait borgne, ou qui aurait une corne cassée, ou une oreille coupée. La bête doit être en bonne santé. Et dans son apparence, en tout cas, tout nous porte à croire qu'elle est en bonne santé. À votre avis, si le prophète nous a dit qu'on ne doit pas choisir comme bête à sacrifier une bête borgne, peut-on choisir à sacrifier une bête aveugle? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui ou non? Non, hein? Pourquoi? Parce que quand elle est aveugle, c'est pire. Donc s'il nous a défendu de choisir une bête borgne, forcément, on se dit qu'une bête aveugle, on ne pourra pas la prendre. C'est encore plus vrai. C'est logique, c'est le cas énoncé ici. Enfin, le cas que je vous ai exposé est encore plus vrai que le cas énoncé. Bon, certains savants disent non. La bête aveugle, on peut la choisir comme bête à sacrifier. Pourquoi? Regardez, ils vont avoir une méthodologie, ils vont analyser la chose de manière différente. Certains vont dire que, en fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a cité comme difformité, comme défaut physique, le fait qu'elle soit borgne, c'est parce qu'une bête borgne, un mouton borgne, il ne va pas manger autant qu'un mouton voyant. Parce qu'il lui manque un œil, donc il va peut-être moins bien manger. Et donc forcément, ça va en faire une bête fébrile, donc ça ne sied pas à ce qu'on va offrir à Dieu, sacrifier pour Dieu. Ben, les savants, ces savants disent, si c'est ça la raison, c'est le fait qu'elle soit bien nourrie ou pas, et bien la bête aveugle, c'est une bête qui est élevée en pâture ou bien dans l'étable. C'est une bête qu'on élève en étable. Et celle qu'on enlève en étable, elle est plus grasse que celle qui mange dehors. Donc la bête aveugle pourra être choisie comme bête à sacrifier. Parce que la raison, c'est quoi? C'est sa santé. Et la bête aveugle est en plus bonne santé que la bête borgne. Peut-être même qu'une bête voyante. Et d'autres vont dire non. Nous, on prend le cas contraire, la bête borgne, la bête aveugle est pire, donc etc., etc. Donc parfois, ils ont des méthodologies différentes. On ne va pas s'étaler sur ce point, parce que c'est un point qui fait... C'est une grande source de divergence. Et on ne va pas s'étaler parce que c'est pas le but. On y reviendra peut-être à l'avenir, hein, quand on traitera peut-être de questions plus précises. Donc les quatre facteurs de divergence, c'est soit la connaissance, la méconnaissance du hadith, ou la divergence sur l'authenticité du hadith, la compréhension différente du contenu d'un texte religieux, la présence d'une contradiction et les différents moyens de résoudre la contradiction. Quatrièmement, une différence dans la méthodologie des savants. C'est ce qui explique la divergence. La divergence, quand on la comprend de cette manière, on se rend compte qu'en fait, tout est relatif. On ne peut pas dire que tel savant est égaré et tel savant est dans la vérité. Parce que tout est relatif. Tout dépend de ces quatre facteurs de divergence. Deuxièmement, la divergence ne doit pas être une source de division. Et souvent, ceux qui font de la divergence une source de division, ce sont des gens qui ignorent la divergence. Ils l'ignorent complètement. Ils ne connaissent pas la nature de la divergence, sa portée, ses facteurs, son ampleur. Ils ne comprennent pas. Et l'ignorance pousse des gens à quoi ? À se tromper parfois. Et à égarer, à dire que des gens se trompent, sont égarés, etc. Ou bien des gens qui sont en fait fanatiques, extrémistes. Ils prennent un avis et je ne sais pas pourquoi, ils considèrent que c'est la vérité révélée et que tout le reste est à jeter à la poubelle. Et là, il y a un peu de présomption, il y a beaucoup d'orgueil et beaucoup d'arrogance. Et sûrement de l'ignorance. Donc, un fanatisme et un hermétisme, et ça c'est un problème au niveau de l'ouverture d'esprit qu'il faut absolument régler. Et vous avez un troisième cas de figure, une catégorie de personnes, ils ne sont pas ignorants, ils ne sont pas fanatiques, mais ce sont des gens qui connaissent la divergence, mais qui la connaissent tellement qu'ils veulent justement en faire un objet, une source de division. C'est souvent les gens au pouvoir, ou les gens, les ennemis de l'islam, si vous voulez. Ils savent que tel sujet est sensible, il fait divergence, et ils le jettent entre nous pour que nous, on se divise, afin qu'il soit plus fort, ou afin qu'il règne mieux. Voilà. Donc vous avez soit des gens qui sont ignorants, et ça, à la limite, on peut le régler, puisque l'ignorance, son remède, c'est la science. Vous avez des gens hermétiques fermés, eux, on peut les changer, mais il faut du temps, il faut qu'ils soient prédisposés à changer, et des gens qui ne veulent pas changer, qui ne vont jamais changer, puisqu'ils utilisent la divergence comme moyen de diviser les musulmans pour mieux les dominer ou mieux les égarer, en fait. Voilà. Mais quand on étudie la divergence à tête reposée, et qu'on y va doucement, sans arrière-pensée, sans fanatisme, le résultat, c'est qu'on est en admiration devant les savants, on est plein d'humilité et de modestie, on s'ouvre, on pondère nos propos, on est beaucoup plus dans la précaution, plus dans l'audace, on est dans la précaution, et ça nous facilite la vie. Et connaître la divergence, ça nous facilite la vie. D'accord ? Donc ça ne devrait pas nous diviser, mais ça devrait nous faciliter la vie et augmenter notre foi. On s'arrête là pour ce hadith. On continuera la semaine prochaine pour la deuxième partie. Et peut-être on débutera notre hadith. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.